Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi cette église? Sur quels critères avez-vous choisi cette église? Souvent, je me pose la question, pourquoi les gens viennent dans cette église de Vendeuvre? J'attends la réponse, hein, si vous voulez. Comment? Ce sont multiples. L'amour fraternel. On est né ici. Né de nouveau ici, voilà. Parce qu'il y a la paix, c'est vrai. Parce que le Seigneur est là, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur est là que nous venons ici. Si le Seigneur n'est pas là, ça ne vaut pas la peine de venir ici. Alors le Seigneur dit que, enfin, je pense que quand il faut choisir une église, il faut choisir une église vivante, non pas une église morte. Dans Apocalypse 3, j'aimerais vous lire ce verset, ce qui est aussi la parole d'aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'Éternel de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, c'est-à-dire Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça me rappelle un peu la parole de Jésus lorsqu'il était avec ses disciples. Il a dit ainsi à propos des spécialistes de la loi et des pharisiens, il a dit « Hypocrite, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. » Autrement dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est comme un état, comme un animal empaillé. Vous savez, on peut voir, je ne sais pas si vous en avez un. Moi, j'en ai déjà vu chez une chrétienne dans mon ancienne église. Et c'est un animal empaillé qui ressemble être un animal normal de loin. Mais de plus près, il leur manque quoi? La vie, n'est-ce pas? Jésus, quand il réprimande l'église de Sardes, en tout cas, quand en entendant ses reproches, il semble donc bien que le péché s'était introduit dans cette église de Sardes. Ceci a fait d'elle un cadavre spirituel. Il y avait l'apparence de piété, mais à l'intérieur même, il n'y avait pas justement la vie, il n'y avait pas vraiment Dieu. Parfois, on peut rencontrer des églises qui ont des noms comme l'église de l'amour. Non, vous n'avez jamais rencontré? Si, moi j'ai déjà vu des églises, les églises de disciples, ou des églises de perspective, comme notre dénomination, ou l'église de Pentecôte. Hein? On essaie de, voilà, on donne l'importance à notre nom, de notre église, pour que ça soit vraiment au centre de voilà. Mais le nom ne représente pas forcément l'église, l'état de l'église. La question que je me suis posée, est-ce que notre église de Vendeuvre est une église vivante, dynamique, super, le Seigneur est là, etc. Amen, alléluia, tout le monde est sauvé. Ou il y a des choses à travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où l'église est morte? Parce que j'aime bien se poser cette question, de nous remettre en question toujours. En disant, est-ce que moi je suis un bon chrétien? Est-ce que je suis vraiment agréé aux yeux de Dieu? En tout cas, à travers ce livre Apocalypse, Jean est en train de dire, enfin, Jésus est en train de dire à travers Jésus que l'église de Sardes n'a pas de vie et que ce qui était vraiment une mauvaise nouvelle pour cette église de Sardes. Jésus était en train de dire, je te connais, tu es mort, tu es réputé pour être vu comme très dynamique, mais aux yeux de Dieu, tu es morte. Vous connaissez l'apôtre Jean ? Il a vécu pendant très très longtemps, c'était lui qui a vécu le plus longtemps parmi tous les disciples. À Rome, il a été persécuté à cause de ce qu'il faisait, à cause de son ministère, et on a voulu le faire mourir. Et on l'a mis dans de l'eau bouillante. Mais par miracle, Jean a survécu. Et puis on l'a exilé à l'île de Patmos. Alors, où se situe l'île de Patmos? C'est juste à côté de Turquie actuelle. Il y a une petite île qui s'appelle l'île de Patmos. Et puis donc, dans les années peut-être 80-95, ce livre a été écrit. Quand ce livre a été écrit, l'église de Sardes existait toujours. Jean était toujours vivant. L'église de Sardes pouvait encore avoir accès à ce disciple de Jésus qui a vu Jésus mourir, qui a vécu avec Jésus, qui était vraiment un témoin oculaire très important. Cependant, avec le temps, peut-être ils ont connu la persécution, peut-être ils ont connu plein de, je sais pas, des choses merveilleuses au départ, mais avec le temps, ça a régressé. En tout cas, lorsque nous lisons dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, Dieu fait un bilan sur les sept églises de l'Asie mineure, et puis seules deux églises n'ont pas reçu de réprimande. Parmi les sept. Ça veut dire que ça fait quand même seulement 30%. Imaginez, après 50 ans et 60 ans après la résurrection de Jésus, l'Église, l'état de l'Église, n'était pas si bien que cela. Alors qu'au départ, ils avaient la foi authentique, la foi simple, etc. Et puis 2000 ans plus tard, nous, comment sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment vivants aux yeux de Dieu? Je vais lire maintenant chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur est en train de dire à l'église de Sardes, reviens en arrière, repense un peu comment tu étais, ce que tu as déjà entendu. Tu as besoin de revenir aux premiers éléments de la foi qui concernent le Christ. Oui, le Christ est venu sur cette terre pour nous les pécheurs, pour nous sauver, pour notre salut. Et surtout, cela, il y a aussi une certaine nécessité de montrer les fruits dignes de la repentance. Si nous nous sommes repentis vraiment devant le Seigneur, il faut qu'il y ait des fruits visibles. Mais apparemment, à Sardes, il y avait très peu de chrétiens encore fidèles. Et seulement ces peu de fidèles ne pouvaient pas, justement, à eux seuls, ranimer le feu, la flamme de l'Esprit de Dieu. Dieu, vraiment, à travers ce message, demande à toute l'Église, à l'ensemble de ses membres, de se repentir davantage. Parce que là, je viens de vous lire qu'il est dit dans verset 3, « Si tu ne veilles pas, il est important de veiller, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui prévient avant de venir chez vous? Hein? Le voleur ne prévient pas de sa visite. Il vient quand on n'attend pas. Et là, il est en train de dire, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Comme un voleur. C'est-à-dire, il faut être vraiment prêt à tout moment pour recevoir ce Jésus qui viendrait comme un voleur. Oui, nous attendons cet avènement de Dieu. cet avènement du Christ, est-ce que vous attendez vraiment? Enfin, on se dit que bon, peut-être il viendra, je ne sais pas, vous savez combien d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans après votre mort. Mais il se peut que le Seigneur vienne maintenant, ce soir même. Même avant les vacances, avant d'en profiter des vacances, le Seigneur peut venir pour nous prendre avec les sons de trompette. Il viendra dans les airs, les morts ressusciteront en premier, puis nous, nous serons montés au ciel pour le rejoindre. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour cela? Oui, le Seigneur viendra soudainement, sans prévenir, pour juger le monde, pour juger le monde. Il ne faut pas oublier que Dieu aussi vient pour juger le monde. Nous, en tant qu'épouse, en tant qu'Église, il faut l'attendre avec cette vie que le Seigneur nous a laissée. Il faut être vivant, non pas mort, etc. C'est la période des examens. C'est super, voilà, c'est la fin de l'année scolaire. Beaucoup de gens passent leurs examens. Chacun recherche son devoir, enfin, essaie de faire son devoir, etc. Réussir dans la vie, c'est important. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce que Dieu nous demande, c'est être victorieux, victorieux en tout point. On peut réussir dans la vie, mais échouer au niveau spirituel. D'ailleurs, ma femme a reçu son concours. non, mais c'est ça. Pardon, chérie. De te mettre mal à l'aise. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est avec ce que le Seigneur nous offre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous sommes des gens qui plaisent à Dieu? Est-ce que nous faisons des efforts pour être victorieux aux différentes tentations qui existent? Est-ce que nous sommes vraiment des gens intègres que Dieu cherche? Ou nous sommes loin de Dieu, loin de la présence de Dieu? Dans le péché, dans le monde. Sardes, l'église de Sardes était une église morte, d'après le Seigneur. Pourquoi? Au verset 2, il est dit, « Soyez vigilants et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Voilà la raison. Dieu n'a pas trouvé les œuvres parfaites dans l'église de Sardes. Apparemment, l'église avait l'apparence de piété, c'est-à-dire que l'église avait fonctionné correctement, il priait peut-être le credo, il y avait une très bonne liturgie, il y avait un très bon groupe de louanges, comme aujourd'hui, ce matin. Peut-être que l'église faisait aussi pas mal d'activités auprès des pauvres, ça se peut. Pour aider une œuvre humanitaire, et puis ce qui était vraiment louable. Mais malheureusement, dans cette église, pour Dieu, c'était une église morte. Pourquoi? Parce que le péché était installé. La majorité des membres de cette assemblée étaient comme des morts, mais vivants, enfin, comme des zombies, comme des zombies spirituels, hein, pour ainsi dire. Ils vivaient dans le mensonge, sans en être conscients, ne sachant pas que Dieu s'est détourné d'eux. Il est dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Oui, ils n'étaient pas complètement transformés. Ils ont entendu, ils ont écouté, il y a peut-être des années de cela, mais ils n'ont pas été complètement transformés. Je vous donne un exemple. Vous savez, un jour, je pense que c'était aux États-Unis, ils font une expérience avec les alcooliques. Pendant 2 ans, avec 4 alcooliques, ils font vivre avec des gens normaux qui ne sont pas du tout addicts. Et ils ont vécu normalement, dans une structure où justement ils n'avaient pas accès à l'alcool. Après 2 ans d'abstinence, on les libère, enfin libère entre guillemets, hein, dans le monde, livrés à eux-mêmes. Et puis ils font l'enquête de ces alcooliques, anciens alcooliques. Et puis 1 an plus tard, ce que nous voyons, c'est que 3 sur 4 ont repris, sont retombés dans l'alcoolisme. Voilà, pareil aussi avec les addicts au jeu. On ne peut pas se défaire complètement si notre cœur, notre pensée n'est pas complètement transformée. Hein? On peut peut-être faire des efforts pour peut-être... voilà, mais les circonstances ne font pas que vous soyez vraiment complètement transformé, complètement. Voilà, la parole de Dieu a été prononcée à l'église de Sardes. D'ailleurs, à l'époque de l'église primitive... Après la proclamation de la parole de Dieu, on a pu voir 3 comportements. D'abord, quand Pierre a prêché après la Pentecôte, 3000 personnes, 5000 personnes se sont repenties et revenues vers le Seigneur. Voilà donc les gens qui écoutent, qui entendent, qui se repentent, qui viennent vers le Seigneur. Ça, c'est le premier comportement possible. Mais on a fait aussi la même chose avec à l'époque de l'Église primitive, c'est-à-dire que, par exemple, vous connaissez le premier martyr, Étienne, il a fait une super prédication, une très bonne prédication, un message central pour dire que Jésus est le Seigneur et que c'est lui qui est venu pour porter tous nos péchés. Et en entendant ce message, les gens se sont mis en colère et ils l'ont lapidé. Voilà, deuxième comportement possible. On a beau prêcher à ceux qui sont autour de nous, il y a des gens qui seront en colère ou qui nous jetteront la pierre à notre message. Et puis, bien sûr, il y a 3e comportement, c'est des gens, des hypocrites, comme les qui ont l'apparence de piété, mais qui ne sont pas complètement transformés. Ceux-là sont comme des porcs ou comme des chiens qui remangent leur vomi. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, 2 Pierre 2,22, il est dit que le chien et retourner à ce qu'il avait vomi. La truie, c'est-à-dire le porc lavé, s'est vautré dans le bourbier. Dans Proverbe 26-11, il est dit, « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. » Ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Hein, comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Pierre choisit donc ces images fortes et violentes pour décrire que ceux qui donnent l'impression d'avoir accepté la vérité en Jésus-Christ, ben, il le rejette finalement et puis il revient à leur ancienne manière de vivre. Parce que tôt ou tard, c'est vrai, ils retournent à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire à des imposteurs religieux, ils retourneront à ce qu'ils sont vraiment. La deuxième exemple dans 2 Pierre, c'était à propos du porc. Voilà, on a beau... vous pouvez toujours frotter et laver à grande eau un porc, mais il ne restera pas propre car il est dans sa nature d'aller se vautrer dans la boue dès qu'il en a l'occasion. Voilà donc ce qu'on pourrait être si nous ne sommes pas complètement touchés, transformés par la parole de Dieu. Voilà, on peut retourner à notre ancienne manière de vivre, car on n'est pas transformé. Je reviens encore à cette question, pourquoi alors on vient à l'Église? Bien sûr, pour ressentir cette présence de Dieu, pour être transformé, pour le salut éternel, bien sûr. Si on n'est pas transformé, alors il faudrait un petit peu penser, en tout cas pour réparer les choses. Pourquoi vous allez à l'hôpital? Il y a des docteurs ici. Hein? Pourquoi on va à l'hôpital? Pour être guéri, n'est-ce pas? Hein? Mais si vous allez dans un hôpital où, justement, il y a plein de bactéries, au lieu d'être guéri dans cet hôpital, vous attrapez plus de maladies. Hein? Si ce n'est pas bien pris en soin. C'est sûr que vous n'irez jamais dans cet hôpital-là. Pourquoi vous venez dans cette église? Il y a un objectif. Nous venons bien sûr pour rencontrer le Seigneur, pour qu'il nous touche, pour qu'on soit transformé, pour qu'on puisse aussi, à la fin, quand il nous invite à entrer dans son repos céleste. C'est pour ça qu'on vient dans cette église. Si vous pensez que vous n'avez pas trouvé ce repos, si vous n'avez pas vraiment été transformé, il faut aller dans quelque part. Hein? Il faut aller là où il y a justement le salut. J'aimerais, oui, dans bientôt, nous aurons encore deux personnes qui vont partir. Il y a les Nguyen qui vont partir bientôt. Et puis, il y a encore Anne Marcignac qui va aussi partir, qui va changer de lieu, qui va déménager. Mon espérance, mon souhait, c'est qu'ils trouvent vraiment aussi une église où il y a la présence de Dieu, où l'église est vraiment vivante, non pas morte. Et nous devons aussi, nous, l'église de Vendeuvre, doit faire tout notre effort pour que cette église devienne vivante. Vivante. Apparemment, dans l'église de Sardes, il y avait un péché. Et ça n'a pas, ils n'ont pas décrit quel était le péché. Et ça, j'ai pu un peu imaginer, à l'époque de l'Ancien Testament, vous savez, il y avait un sacrificateur qui s'appelle Élie, et il avait deux enfants qui s'appelaient Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Vous savez que le poste de sacrificateur était transmis de génération en génération. Donc les fils d'Élie étaient devenus sacrificateurs parce que ils étaient le fils de Élie. Hein. Et là, un jour, c'était des gens très pervers, des gens qui ne connaissaient pas vraiment l'Éternel, mais ils sont devenus quand même des sacrificateurs. Un jour, les Israélites avaient l'habitude d'offrir des offrandes à Dieu. Et puis, en général, parmi les offrandes offertes à Dieu, les sacrificateurs avaient le droit de prendre une partie pour eux. Mais au lieu d'attendre le sacrifice, ces fils d'Élie voulaient justement acquérir ces offrandes sans qu'ils soient offerts à Dieu. Pourquoi? Tout simplement, si on offre ces chairs, les animaux, les animaux étaient rôtis. Et eux, ils voulaient de la chair, enfin, de la viande crue. Voilà, crue, merci. De la viande crue. C'est pour ça qu'ils prenaient les offrandes dédiées à l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et en plus, ils couchaient avec les femmes qui étaient même dans le temple. Vous vous rendez compte? Quel péché il y avait au moment où Élie était grand prêtre et que ses enfants étaient des prêtres. Élie, donc, était très âgé. Et après avoir entendu les péchés de ses fils, il dit, mais pourquoi? Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Et j'apprends de tout le peuple sur vos mauvaises actions. Et puis, ces enfants-là n'écoutent pas. Ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Et le Seigneur dit, parce qu'en tout cas, je pense que l'Éternel avait projet de les faire mourir. Et le Seigneur dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est ce qui s'est passé, Ophni et Phiné seront morts le même jour, bien plus tard. Avant cette sanction de Dieu, pendant longtemps, il y avait un silence de Dieu. Parfois, on a l'impression qu'on pêche, on pêche, on pêche. Comme Dieu ne punit pas, on a l'impression que voilà, tout va bien. Puis on vit comme si de rien n'était. Mais il y a un jour où, comme Ophni et Phiné qui ont été punis, nous pouvons vraiment aussi recevoir cette punition. Là, je suis loin de vous solliciter pour dire qu'il faut être parfait. Non, on ne peut pas être parfait, n'est-ce pas? Hein? Moi en premier. Je peux pas être parfait. On ne peut pas être parfait, mais on peut faire des efforts pour progresser, pour être sanctifié. Comme des escaliers qui montent d'un pas à l'autre, on doit vraiment progresser. Progresser. C'est ça qui est le plus important. vraiment important de se souvenir si dans nos activités, dans l'église de Vendeuvre, si Dieu est au centre. J'étais vraiment super content par Vie dans la ville que nous avons pu organiser, vous savez. C'était vraiment super. Mais j'ai prié au Seigneur, est-ce que tu étais vraiment au milieu de nous? Oui, je pense que oui, il y avait la paix. Mais on n'a pas assez fait pour vraiment peut-être transmettre le bon message à tous ceux qui étaient présents. Voilà, c'était une réflexion personnelle. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que dans chaque activité, que Dieu soit au centre. J'ai connu un pasteur. Un jour, j'ai pu dîner avec lui, enfin, pas dîner, déjeuner avec lui. C'était un pasteur très, très, très célèbre en Corée. Il était pasteur d'une grande église. Et un jour, il abandonne tout, il délègue aux autres personnes. Et puis, il prend un temps sabbatique. Et puis, le Seigneur l'appelle pour implanter une église. Il s'est dit, bah, pourquoi pas. Et puis, il a implanté effectivement encore une autre église. Et comme il est célèbre, en quelques mois, il y a eu 3000 personnes. Oh, ce serait super, hein. En quelques mois, 3000 personnes sont venues. Il fallait louer des locaux, comme il y avait 3000 personnes. Et la location devenait trop chère. Alors il a réfléchi, il a dit, donc il m'a partagé tout ça, il m'a dit que ce serait bien si on achète une église. Comme ça, il y aura moins de dépenses. Ils vont aller voir la banque pour le crédit immobilier, hein, n'est-ce pas, Dominique? la banque, enfin, on leur montre voilà leur finances, voilà tout va bien. En une année, on peut avoir plusieurs millions dans l'église, donc pour le remboursement, etc., sans problème. Donc, ils pensaient qu'avec ces conditions-là, toutes les autres églises pouvaient avoir le crédit. Mais, quelques jours plus tard, la banque leur donne une réponse négative. Et là, ils ne comprenaient pas. Mais je ne comprends pas. Il va aller voir cette banquière et lui pose la question, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir ce crédit? Et elle lui dit ceci, parce que cette église n'existerait pas si vous n'êtes pas là. Si vous mourrez, vous êtes âgé, si vous mourrez, cette église n'existerait plus. C'était un choc pour lui. C'était un choc. Il s'est dit, est-ce que c'est moi le chef de cette église, pas le Seigneur? Il a fait une réunion avec tous les responsables. Puis il a dit, je prends mon année sabbatique, je vais partir. Il est parti aux États-Unis, carrément. Il a quitté le pays pour aller aux États-Unis. Après une semaine de son absence, 500 personnes sont venues en moins. L'ancien téléphone rapidement, cher pasteur, il faut que vous reveniez parce que 500 personnes ne sont pas venues. Hein? Et là, devant cette réponse, enfin devant cette exhortation de l'ancien, le pasteur lui répond ainsi, si cette église disparaît à cause de mon absence, alors cette église doit disparaître. Ensuite, il laisse vraiment une année à part. Finalement, le Seigneur était vraiment au milieu de cette église, ça a prospéré, même ça a prospéré encore plus quand il était présent avec eux. Et puis quand il est revenu, il a partagé cette église en quatre. En quatre. Il disait, vous êtes trop nombreux, on va partager ça en quatre, et puis il y aura un pasteur dans chaque église. Puis lui, il était juste itinérant, donc il prêchait dans chaque église une fois par an, par mois. De toute façon, il ne recevait pas de salaire. Et puis, il a encore d'autres ministères. Enfin, bref, qui est le chef de l'église de Vendeuvre? Oui, il ne faut pas suivre des personnes, Mais il faut aller là où justement Dieu est présent. Je vous relis encore verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Important de se repentir, de revenir à l'endroit où nous avons rencontré le Seigneur. Je continue la lecture. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc il représente bien, les gens fidèles sont un petit peu représentés comme des gens vêtus en blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà porté des vêtements blancs. Si vous êtes vêtu en blanc, comment vous vous comportez? Quand vous mangez, vous faites attention? Hein? Quand je m'assieds sur le sofa, je ne m'assieds pas comme ça. Hein? Je fais attention hein? Pour que ça soit vraiment, ce ne soit pas froissé hein? Et que ce ne soit pas taché. Mais si vous avez des vêtements sales, vous venez de enfin, ma fille a fait un, était hier au Fort Aventure et elle a fait plein de trucs. Apparemment, c'est une sorte de voilà, parcours de combattant. Donc, on s'allie nos habits. Et puis, à la fin, son habit était tellement sale, ben, elle se croulait un peu par terre avec ses potes, etc. Ça ne lui faisait rien parce que les habits étaient déjà sales. Pareil. Quand nous sommes entachés par le péché, quand il y a des tentations qui entrent, ça ne fait rien. On est habitué. Ça peut entrer directement. Ça peut, voilà. Ça ne nous gênerait pas. Mais si nous sommes vraiment transformés par le Seigneur, une petite tache nous gênerait considérablement. Et on va faire en sorte que cette tâche soit débarrassée. J'aimerais vous dire qu'une doctrine correcte ne suffit pas. Vous savez, cette église de Vendôme prêche la bonne nouvelle, prêche la bonne doctrine. Je suis vraiment très content pour cela, pour les prédicateurs qui sont ici présents. Je suis très content pour leur apport. Mais cela ne suffit pas, car il faut que cet enseignement soit confirmé et affirmé par une vie d'obéissance à Dieu. C'est pour ça que, à la fin, si nous respectons cela, nous pourrons dire ainsi comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. On peut être tenté, parce que nous sommes dans le monde. Mais faisons attention. Dans Matthieu 6, 22, il est dit que la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Dans la lumière. Ce que nous faisons, ce que nous voyons, ce que nous pensons est lié aussi avec notre âme, notre corps, notre esprit. Voilà donc ce que je voulais partager ce matin. L'important, c'est de faire nos efforts pour que cette Église soit, enfin, nous-mêmes soient vivants, parce que le Seigneur est là, parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. L'important, c'est de progresser vers la sanctification. L'important, c'est de savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons être loin de Dieu, loin du péché, complètement, pour que Dieu règne totalement en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accompagne et que, voilà, que nous puissions chacun faire tout notre effort et aussi laisser l'Esprit agir en nous pour que, un jour, lorsque nous serons au ciel, que nous nous voyons encore une fois là-bas, éternellement. nous nous verrons éternellement. Donc si vous avez des différends, il vaut mieux résoudre ça maintenant, avant qu'on se voie éternellement là-haut. Voilà. Que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour ça, et que plein de grâce pour vivre cette pour être un membre de l'Église vivante. Amen. Oh non, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu reviens un jour. Tu as laissé Seigneur en nous ton esprit pour que nous puissions être remplis de toi, pour que nous puissions aussi progresser, changer, transformer selon ton image. La connaissance ne nous suffit pas. Il faut aussi l'obéissance. Aide-nous vraiment à t'obéir davantage, à craindre davantage, à ne pas te mépriser, mais vraiment mépriser le péché. Aide-nous vraiment à chérir davantage ta parole qui nous transforme. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Merci encore. Parce que oui, tu reviendras un jour et aide-nous vraiment à veiller davantage chaque jour de notre vie. Combien de fois nous avons oublié dans notre vie quotidienne que tu reviendras un jour? Seigneur, vraiment, comme un voleur qui vient sans nous prévenir, je sais que tu reviendras sans nous prévenir. Mais nous voyons aussi par le temps actuel que, oui, le temps est mauvais et que tu pourrais venir à tout instant. Aide-nous vraiment à être prêts pour cela. Aide-nous vraiment à être enlevés le jour J où tu reviendras, où les trompettes sonneront, où tu nous appelleras. Prépare nos cœurs. Prépare, Seigneur, non pas l'apparence, mais le cœur. Parce que tu regardes le cœur. Touche et transforme-moi. Transforme-nous. Transforme ton Église. Au nom de Jésus. Amen.